Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Au micro et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Bonjour Titane, bonjour Daniel,
bonjour
Laurent. Tous les enfants l'attendent avec impatience, ce moment où l'un de leurs parents, le soir, va lire une histoire, magie d'une voix familière qui va les transporter dans un monde de rêves et les inviter à entrer tout doucement dans le sommeil. Cet instant unique où la nécessité de grandir laisse la place à des mots qui invitent à prendre confiance en soi, parce que quelque part, il y a toujours un écureuil agile qui se joue des obstacles et suggère le moyen de les contourner, ou bien un chat espiègle qui sourit parce qu'il a compris qu'au-delà des apparences, la vie n'est peut-être pas si compliquée que ça. Nous avons tous en mémoire tel conte de Perrault, ou bien cette histoire contée par les frères Grimm d'un tailleur malin qui se joue de tous les défis et réussit à devenir roi. Mais peut-être, nous poserons la question à notre invité, que le conte n'est pas seulement une affaire d'enfant, il n'est que de voir l'importance dans les sociétés où l'écriture a longtemps été absente de ces conteurs qu'on appelle les griots. Bonjour Micheline Duplan.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes conteuse et nous mourons d'envie de nous laisser aller en vous écoutant nous raconter à nous aussi une histoire de conte. Est-ce que l'on peut vous demander comment vous vous êtes découvert cette vocation qui vous pousse à rencontrer un public et à lui raconter des histoires ?
Alors tout à fait par hasard, hein, puisque j'étais en stage BAFA, j'avais 18 ans. On nous a demandé de faire un travail pour préparer un conte pour le soir, pour les enfants, parce que c'était important de savoir raconter aux enfants. Alors j'ai travaillé mon conte. J'avais pas du tout envie de le raconter parce que j'étais assez timide. Et puis finalement, les timides se cachent toujours, hein, alors moi je me cachais derrière le sourire. Hein. Donc on m'a dit que ce serait bien que je raconte. Et puis j'ai raconté, puis je me suis aperçu que ça se passait bien. On m'a dit que je racontais bien. Alors quand on vous dit quelque chose comme ça, vous vous dites, alors si je sais faire, je vais continuer. Alors j'ai continué en colonie de vacances, j'ai continué dans mon travail occasionnellement, hein, comme ça, voilà.
Et ça vous a déjà permis de mesurer l'importance du conte vis-à-vis de tes grands ados, tes enfants, tes grands ados ?
Alors, c'était au départ des tout-petits auxquels j'ai raconté, parce que c'était un stage pour B, pour les tout-petits. Donc, j'ai raconté des histoires pour les petits. Et puis, le temps a passé, et ma fille, un jour, m'a offert un livre de Gougo. Alors, l'avantage d'Henri Gougo, c'est qu'il écrit bien. Donc, on est quand même dans le plaisir de la lecture. Voilà. Et puis j'ai trouvé des contes qui étaient des contes qui ne s'adressaient plus autant aux petits. Donc je les ai appris comme moi, comme ça, pour le plaisir, hein, de les avoir en bouche. Et comme je me suis retrouvée en colonie de vacances à un certain moment avec des ados et des pré-ados, je me suis dit, je pourrais leur proposer une soirée conte. Alors évidemment, ils sont venus entrer dans les pieds. J'avais pris soin de m'installer dans un coin agréable. J'ai dit aux animateurs, vous les amenez, puis vous me laissez faire. Et ça s'est extrêmement bien passé, parce que c'est vrai que c'était des contes qui pouvaient les intéresser. Et là, il s'est passé des moments magiques chaque fois avec ces ados. Et puis le temps a encore passé. Et un jour, on m'a demandé de raconter aussi pour une soirée adulte. Alors là, j'avais carrément peur, parce que je me suis dit, des adultes. Et ça s'est encore mieux passé, parce que finalement, les adultes, c'est un bon public. Hein. Ils viennent pour écouter des contes et ils sont sages. Les enfants, ils parlent, ce qui est sympa aussi, mais les adultes, ils écoutent. Voilà, donc ça se passe bien, en général, avec les adultes.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse parler de contes ? Est-ce qu'il y a dans la structure de cette histoire qu'on raconte à un public, est-ce qu'il y a des éléments incontournables ?
Dans la structure, dans le conte ?
Dans le conte.
Alors, tout dépend le conte. Les contes, ils sont polymorphes, les contes. Hein. Il y en a toutes sortes de contes. Donc, si c'est un conte merveilleux, un conte de fées, c'est vrai qu'il y a une véritable structure. En général, il y a un héros. Ce héros, il fait une quête. Il a quelque chose à faire. il se passe quelque chose et il a quelque chose à faire. Tuer le dragon, ou aller chercher tel ou tel objet, ou délivrer la princesse, que sais-je. Bon. Et en général, ben, pour faire cette quête, il a besoin d'amis, il rencontre des ennemis, il a tout un cheminement, on lui propose même quelquefois des objets magiques ou des formules magiques, enfin pour l'aider. Et puis en général, ben, la quête aboutit et ça se termine bien. Donc ça, c'est vraiment la structure du conte merveilleux. Mais après, il y a toutes sortes d'autres contes qui n'obéissent pas à des structures aussi strictes, hein, et qui peuvent faire déboucher dans d'autres domaines, quoi.
Et pour vous, un même conte peut-être peut-il être raconté différemment selon le public ou selon l'ambiance ?
Ah ben, tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que un conte, finalement, c'est vrai que ça ne s'adresse pas qu'aux enfants. Mais si on raconte une histoire à des petits-enfants, on va peut-être pas la simplifier, mais quand même prendre un vocabulaire plus adapté, essayer de le faire plus court, parce que un conte un peu long, les enfants, au bout d'un moment, ça les intéresse plus. Bon. Si on raconte ce même conte à un public d'ados ou d'adultes, évidemment, on va raconter plus pleinement, avec plus longtemps, d'autres mots. Mais l'histoire sera la même et pas vraiment la même, quoi. Parce que l'histoire, elle n'est jamais vraiment la même. Hein.
Et c'est de l'improvisation à ce moment-là ?
C'est toujours de l'improvisation, un conte. C'est un conte, ça ne s'apprend pas par cœur. Donc c'est vrai qu'on le lit, on l'apprend, on intègre sa trame, et puis une fois qu'on la possède, cette trame, et ben on se laisse aller avec nos mots, quoi, et voilà. Donc on improvise tout le temps, et puis ça s'en va, et puis c'est fini, et en même temps ça meurt jamais, parce que ça, il est parti le conte, mais on en garde, je trouve, la trace en nous. Et puis les gens, ben, ils ont le conte dans la tête et ils vont pouvoir à nouveau le refaire vivre s'ils ont envie de le raconter. Et ils vont le faire vivre avec leurs mots à eux et avec leurs sentiments à eux. Voilà.
Et vous comptez depuis pas mal de temps un conte que vous avez dit au début et le même conte que vous dites maintenant. Quelle évolution a-t-il suivi ? Par rapport à votre propre évolution.
Quand on raconte un conte plusieurs fois, on a l'impression qu'on retombe toujours dans ses mots. Hein. On s'y installe et puis je trouve qu'il y a des phrases qu'on dit et qu'on redit. Alors moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que bon, le conte, forcément, je ne les invente pas, je les lis. Bon. Et quand je le lis, ce conte, je l'apprends, je le digère, je le donne, j'en fais quelque chose. Et puis, je peux être amené pendant un certain temps à ne plus le raconter. Puis je me dis, tiens, je re-raconterai bien ce conte. Donc j'essaye de me le repasser, je ne suis pas très sûr de moi, je reprends le livre, je relis. Alors là, je me dis, tiens, c'est marrant, toi tu dis ça dans ce conte, mais c'est pas écrit. Donc c'est toi qui l'as mis, et puis par contre, tu pourrais parler de ça, parce que dans ce conte, il y a ce truc-là qui pourrait être intéressant, quoi. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, le conte, il est vivant, quoi. Il vit, et puis que selon le moment où on le raconte, eh ben, si on est à un moment de sa vie où on est un peu triste, on va certainement lui mettre un peu plus de nostalgie, et si c'est un moment où on est plus gai, on va certainement y mettre de la gaieté, hein, forcément. Donc, il y a une évolution. Alors, laquelle ? Selon ce qu'on est. Hein.
Et si on imagine, moi, un cas de figure improbable, que sur scène, il y a trois conteurs et que chacun, à son tour, raconte la même histoire. Est-ce que l'histoire va être différente de l'un à l'autre ?
Alors, oui, bien sûr, puisque ce sera la même histoire, mais avec la même trame. Mais étant donné que chacun va la raconter avec ce qu'il est et avec ses mots, il sera forcément différent. Moi, quand j'entends quelquefois une histoire racontée par une de mes collègues, d'ailleurs, c'est toujours rigolo parce qu'on la connaît, cette histoire, forcément, puisqu'on la raconte. Et malgré tout, elle intéresse. on sait la fin et malgré tout, on l'écoute jusqu'au bout dans le plaisir. Donc il y a quand même quelque chose de curieux qui se joue dans le conte, hein, qui parle à je ne sais ce qu'on a en nous d'archaïque et de, mais bon, qui fait que le conte, de toute façon, même si on le connaît, il nous intéresse. Il y a qu'à voir comme les petits enfants redemandent plusieurs fois le même conte, hein, voilà. Et puis c'est vrai que ben voilà, chacun va raconter son conte. Moi je suis des fois surprise, je me dis oh, ben, tiens oui moi je dirais pas ça comme ça du tout. J'avais une histoire de petite souris que je regardais à l'école maternelle. Alors cette petite souris, moi j'étais une petite fille timide, elle descend un escalier, il y a un petit lutin et ce petit lutin il est terrifiant et moi il me faisait une peur ce petit lutin. Et j'ai une collègue qui racontait cette histoire. Et alors, la fois où je l'ai entendu raconter cette histoire, je me suis dit, on n'est pas du tout la même petite souris. Parce que quand je raconte cette histoire, il lui dit, voleuse. Elle lui dit, mais je suis pas une voleuse. Mademoiselle a roulé. La copine, elle disait, mais non, je suis pas une voleuse. Mais non, je suis pas une voleuse. Vraiment, je me disais, on n'est pas la même petite souris, quoi. Donc voilà, c'est...
En fait, on y met ce qu'on est.
Ah ben c'est clair.
Oui.
Non seulement ce qu'on est, mais ce qu'on est aussi à l'instant, parce que on n'est jamais tout à fait le même. Hein. Selon ce qui nous arrive dans la vie, on va raconter des histoires. Il y a des jours, on peut être plus gai ou plus triste que d'autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc c'est vrai que voilà. Le conte, c'est très. Moi, j'ai fait un peu de théâtre et c'est complètement même du théâtre pour enfants, qui n'est pas un grand texte. Mais quand on est dans le théâtre, on est un personnage, on a un texte, même si c'est du théâtre pour enfants, où le texte, on peut arriver à le modifier un peu, et ben quand même, on est un personnage, on est souvent déguisé, on est... Voilà, quand on est dans le conte, on est nous-mêmes, on n'est pas déguisé, on n'est pas costumé, on a choisi son conte, donc on l'a choisi avec... pourquoi c'est ce conte-là qu'on a envie de raconter ce soir ? C'est un peu mystérieux, ça, quand même. Hein, mais c'est celui-là qu'on a envie de raconter ce soir. Et puis voilà, quoi. Puis après, ben, on le raconte avec ce qu'on est, c'est sûr. Hein, c'est sûr. On est tout nu un peu devant le public. Hein. On se livre, on se donne, hein, c'est sûr. Hein.
Et ce contact avec le public sur du conte, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Il y a des moments étonnants, hein, quand on raconte. Alors il y a des moments où on se barbe, hein, parce que on a l'impression que voilà, c'est
pas de réaction.
Il peut y avoir, ça dépend. Mais souvent quand même, on accroche des regards, quoi. Alors on voit des gens qui s'amusent, on voit des gens qui écoutent, on voit des gens qui s'étonnent, on voit des gens qui s'offusquent, on voit des gens. On peut jouer avec ça d'ailleurs, hein. Et puis alors moi, ce qui me fait le plus peur, je dirais, c'est quand j'entends le silence. Parce qu'alors, voilà, quelquefois, on entend le silence, quoi. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, oh, mon Dieu, comment t'écoutes ? Et comme ta parole est importante, ne dis pas n'importe quoi, parce que voilà, on t'écoute vraiment, et... On sent qu'on est en train de dire des choses importantes. Parce que je crois que le conteur, contrairement aux orateurs, on s'en méfie pas. Les orateurs, ils racontent à des centaines de personnes et puis on se dit, il va dire quelque chose d'important. Le conteur, pas forcément, c'est quelqu'un qui raconte aux enfants, hein. Il dit pas forcément des choses importantes, et pourtant, je pense qu'il en dit des choses importantes. Mais voilà. Et c'est pour ça que le conte, à mon avis, il a passé les censures, il a passé les frontières, et il continue parce que voilà, on se méfie pas de lui, et on ferait peut-être bien de s'en méfier un peu des fois.
Dans ce conte musical, chaque personnage est caractérisé par un motif et instrument différent. Petit Pierre, quatuor à cordes. L'oiseau, flûte. la canne au bois. Le chat clarinette. Le grand-père, basson. Le loup, trois corps. Fusil à balle, cymbale et grosse caisse. Un beau matin, Pierre ouvrit la barrière et sortit dans la grande prairie verte. Sur une des branches d'un grand arbre était assis un petit oiseau, l'ami de Pierre. Le petit oiseau pépia gaiement. Tout est tranquille, rien à signaler. À ce moment précis, un canard arriva le nez au vent. Il était fort heureux que Pierre n'ait pas fermé la barrière et décida de s'offrir un délicieux bain dans la mare de la prairie.
Couleur FM 97.1, vous venez d'entendre les débuts d'un morceau universellement connu, le Pierre et le loup, de Serge Prokofiev, donc qu'on ne présente plus. Il a été écrit en 1936 et ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'il a séduit les plus grands chefs d'orchestre et les plus grands comédiens. Alors l'extrait que nous avons entendu est dit par Fernandel. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que très peu de comédiennes ont essayé de l'enregistrer. Il y a quand même Valérie Lemercier. Alors, Micheline Duplan, sans entrer dans des détails trop techniques, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a plusieurs types de contes ?
Oui.
Vous avez parlé du conte merveilleux tout à l'heure.
Voilà, mais ce qu'on appelle le conte de fées,
voilà.
Conte merveilleux.
Il y en a d'autres.
Voilà. Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a les contes facétieux qui sont des contes drôles, voilà, qui sont des contes pour faire rire, avec apparentés à la farce, au fabliau du Moyen-Âge un petit peu, et puis à tous ces personnages qui sont les sages, les fous sages qui, Nasreddin chez les Turcs. Jean Benet chez nous, etc. Bon, il y a aussi des contes étiologiques, des contes qu'on appelle des contes de pourquoi ou des contes d'origine, alors qui expliquent comment l'arc-en-ciel est arrivé dans le ciel, pourquoi le tigre est jaune avec des rayures noires.
Et alors, pourquoi le tigre est jaune avec des rayures noires?
Mais parce qu'on l'a ficelé et qu'on a mis le feu à la ficelle. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, parce que je ne vais pas vous raconter mes histoires, hein, quand même. Bon, non, mais oui, mais voilà, ce pauvre tigre, il s'est fait avoir, quoi. Il s'est fait avoir par l'homme, parce qu'il voulait devenir... Il voulait l'intelligence de l'homme, et ben l'homme s'est moqué de lui, et puis l'a bien eu, quoi. Voilà. Et puis, ma foi, il était orange, et maintenant il est orange avec des rayures noires. Voilà. Il y a des contes de sagesse. Alors, les contes qui laissent à la fin une espèce de petites pensées philosophiques. Enfin, philosophiques, peut-être pas exagéré, mais enfin, voilà. C'est différent d'une morale. Hein. La morale, c'est dans les fables. Et les contes de sagesse, ça laisse une pensée qui fait réfléchir sur certaines situations de la vie. Il y a des contes fantastiques, hein, avec où on ne sait pas bien à quel moment on est dans le conte et puis pas dans le conte. Parce que quand même, moi, ce que je trouve fabuleux dans le conte, c'est que c'est du mensonge autorisé, le conte. Hein. On sait très bien, quand on vient écouter un conte, que ce n'est pas vrai. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie d'y croire, hein. Et puis, on s'identifie. Et puis, moi, je trouve ça bien de pouvoir dire des mensonges. Puis, tout le monde sait que c'est du mensonge, mais tout le monde y croit. Et on dit quand même de grandes vérités en disant c'est mensonge. Alors, c'est quand même rigolo, quoi.
Oui.
J'ai sûrement encore oublié d'autres sortes de contes, hein, mais bon, voilà, pour citer quelques-uns.
Oui, j'aimerais bien revenir sur... Vous avez parlé des contes de sagesse.
Oui.
Ces contes de sagesse, qui est-ce qui les porte ? C'est un sage ? Ça ressemble à quoi, un conte de sagesse ? Ça commence comment ?
Eh bien, ça commence comme toutes les histoires, par « Il était une fois
oui. »,
cher monsieur.
Oui, mais cher madame, mais encore.
Voilà, et puis après, si je vous en raconte un tout petit, c'est pas bien long, voilà, c'est un premier ministre qui a... Il est auprès d'un roi, et il a l'habitude, ce premier ministre, de dire tout le temps une phrase « Tout arrive toujours pour le mieux ». Bon, les gens, ils comprennent pas trop ce qu'il veut dire par cette phrase. C'est une habitude qu'il a, ça les agace un peu, mais enfin, on le laisse dire. Puis un jour, le roi part à la chasse, avec toute sa cour, évidemment, et il est victime d'un accident. Il se fait arracher le petit doigt de la main droite. Alors évidemment, il souffre, on le panse, on le ramène au château, on le soigne un peu, puis quand il va un peu mieux, son ministre vient le voir et lui dit « Mais sire, ce n'est pas grave, puisque tout arrive toujours pour le mieux. » Alors ça, le roi, ça ne lui plaît pas du tout. Hein. Il lui dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter ? Que j'ai perdu mon doigt et que c'est bien pour moi ? Non, mais cet homme est complètement idiot, qu'on le jette en prison et puis que je ne le vois plus. » Alors on jette le ministre en prison, le roi guérit, et quand il est guéri, il repart à la chasse. Et là, il suit un chevreuil dans la forêt. Alors, il galope derrière le chevreuil, il perd le reste de la chasse, il ne se rend même pas compte qu'il traverse la frontière de son pays. Il arrive donc dans le territoire voisin, et dans le territoire voisin, ils n'ont pas du tout les mêmes coutumes. Et notamment, on fait des sacrifices aux dieux, des sacrifices humains. Alors, quand on trouve cet homme qui est un bel homme, et ben, on se dit... on va l'offrir aux dieux. On prépare le moment du sacrifice et au moment où on va le mettre à mort, on s'aperçoit qu'il lui manque un doigt. Ah ben non, on ne peut pas quand même offrir aux dieux un être qui n'est pas parfait, qui n'est pas complet. Alors on lui dit qu'il ne peut pas faire l'affaire et on le renvoie chez lui. Donc il rentre à pied. Alors évidemment, quand on rentre à pied, on réfléchit et il repense à son ministre. Et il se dit « c'était pas idiot ce qu'il m'avait dit mon ministre ». Donc quand il arrive au palais, il dit « Amenez-moi le ministre ». Là, il lui fait des excuses, il lui dit que oui, c'est vrai, ben voilà, il a compris. Mais il lui dit « Enfin, toi, je t'ai fait jeter en prison, voilà, un mois que tu croupis dans une cellule. Comment tu te l'appliques à toi, cette formule ? Hein ? Quel bien tu en as tiré ?» Alors le ministre le regarde et lui dit « Bah, sire, Si je n'avais pas été en prison, j'aurais sûrement été avec vous à la chasse. Et comme moi, j'ai 10 doigts, c'est moi qu'on aurait tué. »
C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
Voilà. Donc, c'est un petit conte de sagesse, tout petit, mais il y en a comme ça des quantités. Hein.
Alors, vous avez évoqué, il y a un instant, ces personnages qui reviennent dans les contes. Est-ce que vous pourriez nous parler de Nasreddin ?
Ah ben Nasreddin, oui, ben c'est le personnage... Mais les Turcs sont tellement persuadés qu'il existe, qu'ils l'ont fait naître dans un village, qu'il a son tombeau, qu'il a une fête, enfin voilà. C'est le simplet, mais qui est c'est un homme, oui.
Il y a toujours une philosophie derrière l'histoire.
Ah ben bien sûr. Oui, oui.
Ce qui arrive, c'est chaque fois, oui, comme vous dites.
Puis il est dans une grande, les personnages comme ça simples, ils sont dans une grande logique, et voilà. C'est tellement logique que ça devient absurde, mais tellement vrai, quoi. Voilà. Hein, donc, et il y a des contes comme ceux de Nasreddin un peu. Alors, les Arabes l'appellent plutôt Ojda que Nasreddin, mais bon, c'est le même personnage et ce sont les mêmes histoires, quoi. Et c'est vrai que quand on va dans faire une soirée au foyer Marabat et qu'on commence. Alors en général, on termine par des histoires de Nasreddine parce que c'est court, parce que c'est drôle. Et puis les vieux messieurs arabes du foyer Marabat connaissent ce personnage et eux-mêmes ils connaissent des histoires et ça part comme les veillées d'autrefois quoi. Tout le monde se met à raconter et eux-mêmes connaissent des histoires.
Il a même droit à un article dans Wikipédia. Nasreddine.
Oh bah bien sûr, hein, bah évidemment.
On le fait remonter au XIIIe siècle.
Non, mais c'est... Oui, c'est un personnage important. Hein.
Et alors, vous dites qu'il est simplet, mais en réalité, non, parce que c'est un simplet. Conte, il n'est pas vraiment simplet.
Mais simplet, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est idiot.
J'ai pas dit ça.
Bon, bah voilà, c'est tout. Il est naïf. C'est un naïf et il est voilà, il pousse les choses jusqu'à l'absurde. Quand sa femme tombe dans la rivière et qu'elle tout le monde évidemment la voit, la pauvre femme, elle est en train de laver son linge, elle part, elle est entraînée par le courant, donc tout le monde court, essaye de la sortir de là et puis on essaye de bon, on se dit bon, il faut on va aller chercher Nasreddine quoi. Alors il arrive et lui il part de l'autre côté. Alors tout le monde lui dit, mais Nasreddine, mais ta femme est entraînée là-bas, dans la direction du courant, pourquoi est-ce que tu pars de l'autre côté? Il dit, mais ma femme, mes pauvres amis, elle fait toujours le contraire des autres, elle ne fait jamais comme tout le monde.
Donc en fait, cette espèce de naïveté, de simplicité, on va dire, il y a un fond d'humour, et c'est ça qui rencontre l'adhésion du public. C'est ça que le public attend.
Il faut le demander au public.
Il faut le demander au plus grand. On lui demandera.
Moi, je sais qu'elle m'amuse bien, ces histoires. Et je crois que quand quelque chose amuse, eh ben, on le fait passer, quoi. Voilà. Hein, et ça amuse les gens. Puis c'est tellement inattendu que, bon, ben, voilà. Inattendu et attendu presque en même temps, quoi. Hein,
Et comment trouvez-vous ces contes?
Ah, ben, dans les livres.
Oui. Est-ce qu'Internet a changé un petit peu la donne? Est-ce qu'on trouve plus de choses sur Internet?
Non.
Non.
Enfin, oui, on peut trouver. Bah, on peut trouver des livres de contes déjà, ça c'est clair, hein, quand on en a besoin. Mais moi, je trouve que sur Internet, on trouve quand même un peu tout et n'importe quoi. Et moi, je me méfie souvent parce que on rencontre des contes bêta. Les gens demandent souvent, est-ce que vous écrivez des contes? Et moi, je dis, c'est dur d'écrire des contes, des beaux contes. Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent des contes, et puis qui écrivent des contes pour enfants et des contes bêtifiants, quoi. Voilà. Et du coup, ben, on en trouve beaucoup des comme ça. Hein. Alors, vous cherchez des contes sur le chocolat, on en trouve. Hein. Alors, moi, j'ai pas envie d'en raconter.
Est-ce que en langue française et en France, enfin ou dans les pays francophones, il y a un personnage comme Nasreddine ou qui revient ou qui est récurrent dans les histoires, dans les contes?
Alors souvent chez nous, on l'appelle Simplet quand même. Hein, c'est Simplet ou Jean Benet, voilà. Mais c'est le même personnage, hein, qui se joue dans le centre France. Bon, ben, alors quelquefois, non, il n'a pas de nom vraiment précis, mais on sent bien que c'est le même personnage, quoi. Hein,
Et le loup, le personnage du loup dans les contes, qu'est-ce qu'il représente?
Bah, le loup, c'est le personnage qui fait peur, c'est le personnage dévorateur, et puis en même temps, ben, c'est un bel animal, donc c'est un animal qui est dangereux, mais qui en même temps peut être il peut se passer des choses incroyables avec le loup, hein. Il peut devenir inoffensif, très gentil, être touché par une petite fille qu'il trouve belle et gentille. Bon, il peut être un peu bête aussi, le loup, hein, quelquefois, hein. On peut se jouer de lui, hein. J'ai un conte là de Noël où là je sais plus d'où il vient, de peut-être des Landes, je crois, où le gars, il est en train de faire sa soupe et puis ça fume un peu dans la chaumière. Alors ils ont ouvert la porte et le loup rentre et la soupe, elle sent bon. Il se dit, est-ce que je vais manger la dame, le monsieur ou la soupe? Bon, il sait pas trop. Et d'un seul coup, il se pourlèche tellement que l'homme et la femme s'aperçoivent qu'il y a un loup. Alors ils prennent peur. Et d'un seul coup, le mari dit à sa femme, jette-lui la louche de soupe à la tête. Alors elle jette sa soupe bouillante sur la tête du loup qui a mal et qui s'enfuit en courant. Bon, hop, il referme la porte, tout va bien. Mais le lendemain, l'année d'après, à peu près à la même époque, c'est Noël, hein, il est parti dans la forêt. Et d'un seul coup, il voit arriver le loup. Mais le loup n'est pas tout seul, ils sont une quinzaine. Alors là, il se dit, mon Dieu, je ne vais pas m'en sortir. Donc il monte sur l'arbre. Les loups ne montent pas aux arbres, il est à peu près tranquille. Les loups s'installent au pied de l'arbre. Hein. Ils sont tranquilles, ils attendent, ils se disent, il va bien finir par redescendre. Et puis quand même, le temps passe. Une heure, deux heures, cinq heures, c'est trop. Alors le vieux loup se dit, j'ai une idée. Donc, il se met debout sur les pattes arrière, le deuxième loup monte sur ses épaules, et puis ils se font une courte échelle, quoi. Et d'un seul coup, le gars se dit, mais ils vont arriver jusqu'à moi, ils vont me manger. Alors il lui vient qu'une idée à l'esprit, il crie, jette-lui la soupe chaude à la tête. Et du coup, le vieux loup, quand il entend ça, eh ben, il fait un bond, tout le monde se casse la figure. Et voilà, comment on peut se jouer du loup. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui fait peur, hein. Bon, le petit chapeau en rouge, il est quand même, hein, c'est bon. Mais pas que, hein.
Je voudrais revenir sur vos idées de conte. Vous dites que vous en lisez. Comment vous les trouvez? Vous allez dans la librairie, vous cherchez les livres d'enfants, vous cherchez les livres de contes, parce que bon, à part Grimm, Perrault, Andersen et puis quelques autres...
Tout ce qui s'appelle contes, je vais dans les foires aux livres d'occasion, je cherche, on m'en offre aussi, hein, parce que bon, voilà, ça fait c'est une bonne idée de cadeau. Une bonne idée de cadeau. Voilà, alors on m'en offre, et puis j'ai une armoire pleine de livres, hein, de contes. Et puis, ma foi, ben, on les feuillette de temps en temps. Alors, quand on vous demande des thèmes, ben, il faut chercher dans les livres. Bon. Donc, on cherche. Et puis, en cherchant, ben, quelquefois, ben, on se dit, tiens, celui-là, je ne le connais pas. Le titre accroche. Il n'a jamais accroché, puis ce jour-là, il accroche. Ça, c'est aussi hein, ce qu'on est à ce moment-là, sûrement. Et puis, on lit ce conte. Et puis, on se dit, mais j'ai envie de le raconter, ce conte. Voilà. Donc, on le raconte, quoi. Voilà. Alors, j'ai des tas de livres et puis je lis. Tous les jours, presque, je lis des contes. J'en lis beaucoup, 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 beaucoup. Alors, y a des contes de pays étrangers, il y a des contes... Puis, il y a quand même les livres de... Toutes les recherches qu'a fait Henri Pourrat sur... dans le Centre France, le trésor des contes, c'est un véritable trésor, hein, parce que... Il a retrouvé... Il y a des contes traditionnels qu'on racontait. Moi, je raconte une histoire de petit tailleur qui... Et l'histoire d'Henri Pourrat, je la trouve plus intéressante que, enfin pour moi, hein, voilà, que celle qu'on raconte de façon traditionnelle, quoi. C'est à peu près la même, hein, mais avec d'autres détails, d'autres, voilà, bon.
Est-ce que comme une recette, vous mélangez parfois deux, trois contes en disant, tiens, ça se tient, là, je vais...
Alors peut-être, je dirais pas comme ça, je mélange peut-être pas des contes, mais je fais des enchaînements de contes. Oui, il y a des histoires qui... On sent que celle-ci appelle celle-là, quoi. Et que, voilà, ça peut être intéressant. Oui, oui, c'est sûr qu'on peut faire... C'est ce qu'il y a de merveilleux dans le conte, c'est que c'est de l'oralité. Donc, c'est à personne et c'est à tout le monde et c'est à moi. Hein, voilà. Puis après, ben, j'en fais ce que j'en veux, puis je le donne. Hein, mais... Puis c'est du partage, le conte, hein, donc c'est chouette, ça.
Couleur FM 97.1. Nous venons d'entendre le premier mouvement des Contes de Mamerlois que Maurice Ravel a composé à partir du recueil de Charles Perrault. D'abord une version à quatre mains pour piano, et puis en 1916 une version symphonique. Donc nous avons entendu Pavane. Micheline Duplan, vous accepteriez de nous donner un exemple d'un conte?
Bah écoutez, volontiers, puis vous entendrez Micheline Duplan à l'accordéon diatonique, ce sera moins bien que ce qu'on vient d'entendre, mais enfin,
c'est un double cadeau, donc.
Ce sera comme ce sera, hein? Voilà. Eh bien, il était une fois une petite vieille. Et quand je dis qu'elle était vieille, elle était très vieille parce qu'elle avait 99 ans. Elle vivait dans sa maison avec une poule, une vache, une chèvre, son chat. Elle ne voyait plus beaucoup, elle n'entendait plus grand-chose. Elle avait peut-être un regret, celui de ne pas s'être mariée, de ne pas avoir eu dans sa vie une belle robe blanche de mariée. Mais bon, tout le monde a des regrets. Et il y a une chose de sûre, c'est qu'elle n'avait pas envie de mourir, cette petite vieille. Ce soir-là, il fait de l'orage et on frappe à sa porte. Alors elle dit « Qui est là ?» La mort, hein, répond une voix. Pardon, vous voulez répéter? J'ai pas bien entendu. La mort. Aurore? Ah, mais je connais personne qui s'appelle Aurore, mais. Attendez, je vous ouvre. Alors elle court à la porte, elle ouvre la porte. Et elle voit la mort, mais. Comme elle voit pas très bien, hein, elle voit. Elle dit, mais écoutez, madame, je ne vous connais pas, mais. Entrez, entrez seulement, c'est gentil de me faire une petite visite. Oh, je suis tellement toute seule. La mort, on ne l'a jamais reçue comme ça, elle est quand même un peu déstabilisée. Qu'est-ce qui vous amène, madame? La mort lui dit, je viens vous chercher. Pardon? Oh, parlez plus fort, vous savez, je suis un peu dure d'oreille. Hein. La mort lui dit, il faut mourir. Courir? Oh non, oh là là, vous savez, je suis trop vieille, je ne peux plus courir. Mais madame, malade, mais non, je ne suis pas malade, non. Vieille, je vous répète, vieille. Vous savez, ça vous arrivera à vous aussi. La mort, elle n'en peut plus, hein, je vous le dis, elle n'en peut plus. Elle en est fébrile, elle en est tremblante. Elle se dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors elle pousse un cri qui vous glace le sang. Mais comme la petite vieille, elle entend mal, elle l'entend crier, puis elle la voit tellement trembler, elle lui dit, vous avez la grippe. Hein. Vous êtes trempée. Mettez-vous derrière le paravent, prenez ma chemise de nuit, installez-vous dans le lit, je vais vous faire une tisane de pissenlit poivré, vous allez voir, ça va vous remettre. Et la mort qui n'en peut plus, elle se met à sangloter, elle va derrière le paravent, elle pose ses vêtements, elle se couche dans le lit, elle boit la tisane, elle s'endort. Elle reste couchée 3 jours au moins. Elle voit la petite vieille qui s'agite. Elle est même toute requinquée, la petite vieille, parce que du coup, elle a quelqu'un à s'occuper. Alors, de temps en temps, elle lui dit, je peux vous aider à faire quelque chose? Non, 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 dit la petite vieille. Laissez-moi faire, laissez-vous dorloter. Puis quand même, au bout de 5 jours, elle lui dit, vous savez, faudrait peut-être un peu vous remettre debout, parce que vous n'allez pas passer votre vie couchée. Hein? Allez, je vais vous donner mes pantoufles et ma robe de chambre. Et on va aller au coin du feu. Et la mort, qui a toujours l'habitude de tout diriger, elle s'appuie sur cette petite vieille. Elle s'installe au coin du feu. Elles apprennent à jouer à crapette aux dames. Elles boivent une petite prune. Elles bavardent. Enfin, tout va très bien. Et la mort, elle s'attache à cette petite vieille. Elle s'y attache. Alors quand elle va mieux, bah, elle reste là. Elle va traire la vache pendant que la petite vieille, avec la faute de sa nouvelle amie, coupe l'herbe du pré. Et puis quand même, un jour, il y a un mois que la mort est là, elle se dit, il faut bien que je reprenne mon travail. Alors elle dit à la petite vieille, tu sais, parce qu'elles se disent tu maintenant, elles sont devenues intimes, il faut que je m'en aille. Tu t'ennuies ici, dit la petite vieille qui là n'a pas eu besoin qu'on lui répète les choses. Non, mais si, je vois bien. Tu veux partir? Ben oui, mais. Tu veux me laisser toute seule? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que j'y aille, il faut bien que je reprenne mon travail. Bon, eh ben écoute, eh ben moi, puisque c'est comme ça, je pars avec toi. Je pars avec toi parce que moi, maintenant, ben, j'ai plus l'habitude de vivre toute seule, alors je veux partir avec toi. Voilà. Mais avant de partir, il faut que je te dise quelque chose. On partira pas avant demain matin si ça t'ennuie pas, parce que ce soir, c'est mon anniversaire, j'ai 100 ans. Alors là, la mort, elle a fait un gâteau. Quand la petite vieille a vu le gâteau, elle lui a dit, on va jamais mettre 100 bougies là-dessus, hein, parce qu'il est bien trop petit, ce gâteau. Attends, j'ai une idée. Elle a cherché dans les placards, elle a trouvé des bougies, elle les a installées de partout, elle les a installées sur la cheminée, elle les a installées sur la commode, de partout. Et puis elle a fait cuire le gâteau, puis elle lui a dit, maintenant tu fermes les yeux. Alors, la petite vieille a fermé les yeux, elle a allumé toutes les bougies, et puis elle a chanté « Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères oh, !» La petite vieille, elle lui a dit, il y avait longtemps, longtemps, tu sais, qu'on ne m'avait pas fait de gâteau. Mm. Et puis même, j'ai un cadeau, a dit la mort. Et là, elle a sorti un paquet. « Mais tu es folle, un cadeau à mon âge, non mais franchement, bah ouvre !» Alors elle a ouvert la boîte, et dans la boîte, il y avait une robe, toute blanche. La petite vieille, elle l'a touchée. Elle l'a dépliée, une vraie robe de mariée. Alors elle l'a mis. Elle est allée chercher un collier avec des perles de couleur. Elle lui a dit, c'est le collier que ma mère portait. J'ai plus que ça d'elle. Regarde, regarde comme je suis belle. La mort lui a dit, tu sais, quand on fait la fête, on danse. Alors, je vais te jouer un petit air d'accordéon. Il y a longtemps que j'ai pas joué, je risque de faire des fausses notes. Mais on y va. Joue-moi une valse, a dit la petite vieille, parce que moi, oh, qu'est-ce que j'aimais valser. Allez, allons-y. Et la mort s'est mise à jouer, et la petite vieille s'est mise à danser. Oh, je suis tout essoufflée. Et puis, il faut encore qu'on éteigne toutes les bougies. Alors, elle a éteint toutes les bougies. Elle en a laissé qu'une sur la table de chevet. Puis, elle a dit, tu sais, je crois qu'il faut que je m'allonge un peu parce que je suis fatiguée. Elle s'est allongée. Elle a fermé les yeux. Elle était belle dans sa robe blanche. Et puis, elle lui a dit, mon ami, je crois que maintenant, on peut partir. Alors, la mort, elle a soufflé la dernière bougie, puis elle est sortie en fermant la porte.
C'est trop beau. On est les adultes comme les enfants, vous l'avez dit. On écoute, on est emporté.
Mais moi, je suis sûre que les contes, ce n'était pas fait pour les enfants. Non, hein. Bien pense. Sûr que non. Mmh. D'ailleurs, dans certaines sociétés, on les envoie coucher pour que les adultes écoutent les histoires. Et bon, je me suis dit pourquoi, d'un seul coup, les contes sont devenus pour les enfants. Moi, je me dis que les contes, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien, c'était fait pour les illettrés, pour les gens qui ne savaient pas lire et pas écrire, et c'était la culture des gens qui ne savent pas lire. Et maintenant, dans nos sociétés occidentales, surtout, tout le monde sait lire et écrire, et qui ne sait pas lire et écrire, ce sont les petits-enfants. Alors, il y a eu un glissement, moi, je pense. Mmh. Et il y a eu un glissement, on s'est mis à raconter des contes pour les enfants. Plus toute la littérature enfantine qui s'est greffée là-dessus, les albums et tout. Et du coup, on a eu l'impression que les contes étaient devenus pour les enfants. Mais les adultes sentent bien que puis on parle de tout dans les contes. On parle de la vie, on parle de la mort, mais on parle moi, je me dis, un conte, c'est le miroir d'un homme, quoi. on retrouve tout dans le conte. Les défauts, les grands idéaux, les envies d'être riche, les envies d'être célèbre. Et quand on raconte une histoire, on parle des hommes et on parle à des hommes, donc ça fait écho et on écoute. Voilà.
Et comment apprend-on à dire comment apprend-on à être conteuse? Y a-t-il des stages, un apprentissage? Comment fait-on?
Je sais pas.
Il faut déjà.
Ça existe pourtant.
Oui, alors il y a des stages qui existent. Moi, je suis sûre qu'on n'apprend pas à devenir conteur. On est conteur ou on l'est pas. Bon. Mm-hmm. Voilà. Après, ce qu'on peut apprendre, c'est effectivement à poser sa voix, c'est effectivement écouter différents conteurs pour entendre et puis se dire tiens, j'aime mieux comme celui la raconte ou comme celle la raconte. Ou on peut apprendre des techniques, on peut apprendre dans les stages. Mais bon, après on voilà, un stage c'est fait que pour se perfectionner, pour s'enrichir, mais pas pour apprendre à compter. Parce que moi, j'ai vu des collègues qui savaient pas compter. Elles ont fait 15 stages, elles savaient toujours pas compter au bout des 15 stages. Hein. Et les pauvres instructeurs, ils s'arrachaient les cheveux, hein, parce qu'ils avaient beau dire et redire, ça passait pas, quoi. Donc bon, après.
Oui, parce qu'il y a, comme vous le dites, la voix, mais également aussi ce qu'on sort de soi-même, comment on le présente, et il faut que ça passe la rampe.
Je crois qu'il faut se laisser aller, quoi. Il faut être vrai, il faut être authentique, il faut laisser passer ses émotions. Si on laisse pas passer, on peut pas toucher, hein. Moi je pense, hein. Après, ce que je dis, hein, n'engage que moi-même.
La voix est importante aussi.
Oui, mais alors ça, moi, quand on me dit que j'ai une voix qui passe bien, je dis merci papa, merci maman, parce que je n'ai pas l'impression d'y être pour grand-chose. Hein, c'est vrai qu'on me dit souvent, on me dit souvent que j'ai une voix agréable, une voix qui passe bien, une voix qui calme, une voix... Bon, c'est comme ça, quoi.
Et vous avez trouvé une autre voie, celle de créer, de faire partie d'une association.
Vous faites partie d'une association.
Oui. Elle fait des jeux de mots.
Oui, non. Elle jouait la vieille dame qui a 99 ans, qui ne voit plus, qui n'entend plus.
Effectivement, un jour on était, il semblait à deux conteuses de la bibliothèque qui avaient une demande dans le Nord-Isère, donc. Elles étaient deux, et puis elles ont été trois, puis quatre, puis cinq. Et puis, je les ai rencontrées. Elles m'ont dit, si on faisait une association à la bibliothèque. Donc, on a monté notre association qui s'appelle Il était plusieurs fois, qui a son siège à la médiathèque de Bourgoin-Jallieu. Et puis, on raconte dans toutes les médiathèques de la CAPI, dans les écoles, de partout, quoi. Enfin, de partout où on a envie d'entendre des contes et où on nous invite.
Et est-ce qu'il y a des endroits, des lieux privilégiés pour le conte? Je veux dire, en France, par exemple, est-ce qu'il y a des nids de conteurs particuliers? Entendu parler de
ça? Il y a Pougnérisson, hein, déjà, avec Yannick Jelin. Hein. Voilà, ça, c'est incontournable quand même. Hein,
C'est quoi ça?
Pougnérisson, c'est... Yannick Jelin est un conteur un peu farfelu, faut bien dire, hein. Et il parlait souvent, je crois, dans ses histoires d'un bled qui s'appelait Hérisson parce qu'il trouvait que c'était drôle. Et puis finalement, à Pougnérisson, où il n'y a strictement rien, une église, un vieux château, tous les deux ans, il y a un grand festival où il invite des conteurs, des folkeux, des tas de trucs. Et puis c'est devenu, il a baptisé ça le nombril du monde, et il y a des pancartes sur la nationale qui indiquent Pougnérisson, nombril du monde, voilà.
Et c'est à quel endroit exactement?
Alors c'est pas très loin de Poitiers, et alors je dis un jour à des amis, cet été je vais à Pougnérisson. Je dis, elle est complètement folle, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et puis, ils reviennent d'Afrique, ils sont dans l'avion, ils voient le journal, toute la page, disant, Yannick Jeulin se dispute avec le maire de Pougny-Hérisson, c'est le dernier festival de Pougny-Hérisson. Enfin bon, ils se disent, mais c'est là où elle est. Et c'est vrai que c'est alors, il a fait un... Il a fait une mine, il a inventé un personnage, il a fait une mine dans laquelle les contes, d'où les contes sortent. Il y a un jardin, on peut se promener, on entend des voix qui vous chuchotent des contes. Et puis, ah oui, c'est assez incroyable. Et puis, il a jumelé quand même Pougny-Hérisson avec l'étoile polaire, donc...
Et le festival a lieu à quel point?
Alors, il a lieu autour du 15 août, 13, 14, 15 août, d'accord, à peu près, tous les deux ans.
Voilà. Un rendez-vous à...
Oui, à Pougny-Hérisson, voilà. Voilà. Bon, sinon, il y a le Festival des Arts du Récit qui a lieu chaque année, voilà, à Saint-Martin-d'Hères, voilà, et qui, où il y a des conteurs qui viennent de la France et même du monde entier, qui racontent, ça se passe quand même beaucoup autour de Grenoble, hein. Mais chaque année, la Tour du Pin fait venir un conteur à la médiathèque, quelquefois à Montalieu, à Bourgoin, on a fait venir une fois Pépito Matteo dans ce cadre-là.
Ah, oui.
Et aussi quelqu'un qui est décédé, que j'aimais beaucoup, la conteuse haïtienne Mimi Barthelmy, voilà, qui est venue à Bourgoin. Mais voilà, alors il y a aussi un festival sur Lyon, et puis il y a plein d'autres lieux, hein, je me rappelle plus.
Mais c'est une force d'être en association, parce que il y a un lieu, on sait qui contacter, et dépendant de la liberté de chacun, enfin du temps libre de chacun, c'est important d'avoir un statut.
Ah ben tout à fait. D'abord, oui, on est tout un groupe, donc quand on nous demande à plusieurs endroits, eh ben on peut répondre aux demandes, on peut y aller à une, à deux, à trois, Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'on a tout notre répertoire assez curieusement, on ne raconte pas les mêmes histoires. Alors, on a quelques histoires en commun, mais c'est bien la preuve que on choisit une histoire en fonction de ce qu'on est, et voilà, on raconte rarement les mêmes histoires. Alors on se contacte, on va à tel endroit, tu penses raconter quoi? Et c'est rare quand on se dit, ah ben tiens, je pensais la raconter aussi. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare, quoi. Donc c'est vrai que, et puis c'est un bel échange. C'est intéressant d'y aller à deux ou trois quand on fait une soirée. Là, on va faire une soirée à Maubec le 15 novembre, je crois. Bon, c'est pareil, c'est un repas, on va raconter au début, au milieu, à la fin, mais comme chacune a son style, eh ben ça passe bien, quoi. Parce que ça peut être monotone, hein, d'entendre toujours la même conteuse. Hein. C'est pour ça que c'est bien, moi, si je fais des soirées pour certaines personnes, souvent, je m'accompagne avec des musiciens, parce que les musiciens permettent
d'avoir un souffle.
Voilà, on termine une histoire et puis, bon, on la laisse se poser un peu, hein, pendant le temps musical, et on repart sur autre chose, quoi. Voilà.
C'est très agréable, j'imagine, chez vous, ou dans des fêtes privées, même, on vous demande,
oui,
raconte-nous, parce que
oui,
c'est vrai que avant, c'est ce qui se passait. Enfin, moi,
oui,
rappelle,
bien sûr.
Les oncles et les tantes, ils avaient une façon de raconter, même, je ne sais pas, le fermier dans son champ, ce qu'il avait eu, des moments parfois tristes, mais qui nous faisaient rire de la façon dont
ils le racontaient.
Oui.
Et puis ils avaient leur spécialité, souvent. Hein. Oui. Voilà. C'était telle histoire ou telle chanson, hein, parce que ça se rejoint. D'ailleurs, on voit bien quand on fait des soirées contes, on raconte, et puis après, les gens, souvent dans ces villages, eh ben, il y en a qui aiment bien, qui racontent, il y en a qui chantent, il y en a, et on débouche sur une veillée, quoi, une vraie veillée, où ça devient spontané. Et nous-mêmes, on peut à ce moment-là raconter des contes qu'on n'avait pas prévu de raconter, mais parce que c'est parti, quoi. Voilà.
Ça me fait penser aussi à un ami qui habite Paris et qui aime raconter. Et il part de ses affaires, de son histoire personnelle. Et chaque fois qu'il vient, et avec les enfants ou ceux qui sont là, je lui dis genre, s'il te plaît, raconte-nous. Et là aussi, je vois l'invention, parce que l'histoire, la base est la même, mais selon qu'il est, je me dis, tiens, il y a ça en plus cette fois-ci, et puis, ah oui, mais ton drapeau, là, tu as... Ah oui, alors, et ça bouge, ça.
Oui, bien sûr. Et moi, je racontais souvent en colonie de vacances, et j'avais quelquefois les mêmes enfants qui revenaient. Et alors, ils me disaient, mais t'as pas dit ça, là ? L'année dernière, tu l'as dit. Je me dis, mais il y a un an que j'ai raconté cette histoire. Ben oui, mais...
Ah oui.
Ils c'est attendaient un... ça, et puis zut, je ne l'avais pas dit. Ben oui, ben oui.
Alors, Micheline Dublanc, vous avez fait un voyage il y a quelque temps.
Oui.
En Arménie.
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes allée faire là-bas?
Et
si on peut vous demander.
Eh bien, on est... Bon, d'abord, on avait envie de découvrir l'Arménie. Et puis aussi, on avait envie de découvrir l'Arménie à travers les contes, parce que c'est vrai que le conte, bah, c'est aussi quelque chose qui appartient à un pays. Alors, on s'aperçoit que, ben, qu'il y a les contes, mais il y a les mythes, et puis il y a les légendes. Et du coup, eh ben, quand on va dans un pays comme ça, il y a des personnages mythiques qui sont les personnages fondateurs d'un pays. Donc, on a eu l'occasion de découvrir des personnages qu'on ne connaissait pas. Ahaï, qui est le personnage fondateur de l'Arménie, et qui veut d'ailleurs dire Arménie, je crois. Et on a raconté ce conte face à des étudiants à l'université, et tous connaissaient leur héros fondateur, quoi. Et ils étaient très touchés que nous, des Français, on leur en parle. Après, bon, on a raconté une ou deux légendes, et puis on est tombé plus après dans des contes, ben, dans des contes drôles, de sagesse, de, voilà, on a fait tout un ensemble. Et c'est vrai que on a fait des veillées avec des gens. On passait deux soirées dans la même famille, on était en famille. Le monsieur nous a dit, demain, moi je vais chercher des histoires dans mon livre et je vous en raconte. Et le monsieur, à son tour, a raconté des histoires. Alors on racontait avec un... Évidemment, je ne parle pas l'arménien. On avait un jeune homme qui traduisait. Et comme on était avec Brigitte Karl, on a travaillé avec elle, comment faire pour raconter en alternance avec un traducteur. Et c'est intéressant parce que du coup, on s'aperçoit qu'il faut coller au thème de l'histoire, faire des phrases courtes qui en même temps sont percutantes. Et on est dans la chanson de la langue de l'autre, quoi, parce qu'on dit quelque chose, l'autre traduit. Et puis, il y a une espèce d'osmose qui se passe et c'était
magnifique.
Ah, c'était un voyage inoubliable parce que on touche vraiment ben, l'âme d'un pays, quoi, à travers ses contes. Voilà.
Voilà, le temps est déjà passé. Pourtant, le conte devrait nous n'a pas de temps, n'a pas de limite, mais là, nous devons nous séparer. Merci beaucoup, Micheline Dublanc.
Merci à toi,
Dominique, d'avoir préparé cette soirée. Merci à toi,
Dan. Rendez-vous pour d'autres contes.
Pour d'autres contes. Et merci, Laurent. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.